Alors, nous allons essayer avec Géraldine hein, de rentrer un peu plus finement dans la lecture du référentiel hein, et puis surtout nous permettre d'identifier, enfin vous permettre d'identifier quels sont les éléments qui favorisent justement l'acquisition des compétences, alors tant spécifiques liées au BTS gestion de la PME, mais comme le disait effectivement Jean-Michel, hein, ces fameuses compétences transversales telles que la communication, la collaboration, l'ETIS, tout ce qui est lié aussi aux habileté sociale. On fait référence effectivement aux compétences du 21e siècle hein, qu'attendent effectivement les entreprises aujourd'hui et notamment les PME. Alors trois temps hein, pour cette présentation. Alors très brièvement, le premier, on rappellera, mais Jean-Michel l'a fait, ce qu'est un référentiel avec à la fois le RAP et puis le référentiel de certification. Et puis un second temps centré sur la lecture du référentiel, mais là d'une manière plus pédagogique, hein, c'est-à-dire on va rentrer finement dans les différentes composantes pour voir comment justement se servir de ces composantes-là comme véritable cahier des charges pour permettre de former au mieux nos étudiants. Et puis le dernier temps sera davantage centré sur comment organiser, donc une fois qu'on a identifié ces composantes de compétences, comment les organiser au mieux pour les traduire en situation pédagogique et faire en sorte aussi de permettre une analyse de pratique, hein, l'analyse réflexive, la praxiologie. Alors le RAP, le référentiel tout d'abord, trois parties. Hein. Le référentiel des activités professionnelles hein, qui décrit toutes les activités d'un métier en s'appuyant bien sûr sur l'analyse des situations professionnelles avec tout ce qui est bien sûr de l'ordre du contexte des situations. Une fois qu'on a identifié toutes ces activités, elles sont traduites en compétences, donc on les retrouve dans le référentiel de certification, avec bien sûr, il ne peut pas y avoir compétences sans savoir associer, sans données de situation et sans un bornage de ces compétences qui sont à la fois les limites et les critères d'évaluation pour permettre bien sûr d'évaluer au mieux ces compétences. Et puis la dernière partie étant celle de la certification, hein, une fois que ces compétences sont développées, comment les faire acquérir à nos étudiants. Donc toutes les modalités de certification se trouvent dans l'annexe 2. Alors, on ne peut pas, bien sûr, en qualité de pédagogue, rester à cette simple lecture linéaire du référentiel, bien évidemment, et ça, vous le savez tout aussi bien que nous. Mais il va falloir, effectivement, regarder comment les organiser, ces compétences, comment les identifier d'abord, comment les organiser, pour faire en sorte que le cahier des charges, qu'est le référentiel, devienne un véritable outil pour vous permettre d'élaborer des situations professionnelles. Alors, la compétence, elle est bien sûr au cœur hein, du travail à conduire. Et le référentiel, encore une fois, c'est un véritable cahier des charges qui va nous permettre d'élaborer des situations. Alors, tout d'abord, un bref rappel de ce qu'est une compétence. Ça a déjà été développé tout à l'heure. Une compétence n'est pas hors sol, bien sûr. Elle est obligatoirement rattachée à une activité professionnelle. On dit qu'elle est encapsulée dans cette activité. Et puis, elle est entourée de différents éléments. Et ces différents éléments ont les uns les autres, bien sûr, des spécificités. On le verra un peu plus finement tout à l'heure. Tout d'abord, les données, hein, c'est-à-dire tout ce que l'on va apporter à l'étudiant pour mettre en œuvre cette compétence. Ça va être des documents, ça va être des outils, ça va être des savoirs également. Donc les savoirs, bien sûr, sont après. Ce qu'on a en termes de données et de savoirs sont les ressources, à la fois internes et externes, hein, qu'on mettra à disposition de l'étudiant pour pouvoir mobiliser la compétence. Ensuite, nous avons les limites hein, qui permettent justement de dire jusqu'où on va dans l'activité, mais jusqu'où on va aussi dans la prise d'initiative ou dans l'autonomie, puisqu'on le verra, il y a certaines activités que l'étudiant pourra conduire relativement seul en autonomie, et d'autres, il sera uniquement dans l'accompagnement. Donc là, son degré de responsabilité sera relativement limité. Et puis le dernier, lié aux critères de performance, aux résultats attendus, donc c'est l'une des composantes les plus importantes à regarder finement, dans la mesure où il permet de borner l'apprentissage, c'est-à-dire jusqu'où je vais pour élaborer mes situations, mais jusqu'où je vais aussi en termes de critères d'évaluation pour pouvoir évaluer ces compétences. Alors, comme dit précédemment, puis ça a été aussi rappelé par Jean-Michel tout à l'heure, hein, les compétences sont, on va dire, pluriel. Alors, il y a certes les compétences qu'on peut qualifier peut-être de spécifiques, alors techniques, alors c'est pas lié bien sûr au domaine industriel, hein, mais techniques dans le sens où elles sont directement attachées à une compétence, à une activité, pardon. Et puis tout ce qui est de l'ordre du transversal, hein, ces fameuses compétences transversales, encore une fois la communication, très importante dans notre référentiel, les habiletés sociales, hein, savoir-faire, capacité à faire, capacité à apprendre également, et tout ce qui est de l'ordre du numérique, du comportemental. Alors on voit bien que ces deux types de compétences sont indissociables, hein, c'est pas l'une ou l'autre, mais c'est bien l'une et l'autre ensemble pour pouvoir développer justement les compétences. Alors on retrouve justement ces compétences à la fois spécifiques et transversales dans les différentes composantes, hein, à la fois les contextes de la situation, les savoirs associés, donner des situations, critères de performance. On va y rentrer un petit peu plus finement pour voir justement comment bien identifier à la fois la part de ces compétences spécifiques et la part de ces compétences plus transversales. Alors comment avons-nous choisi au niveau du groupe d'organiser justement le référentiel, hein, là vous le voyez sous forme de tableau, alors bien sûr d'une manière très synthétique, on voit bien que la compétence elle est au cœur, hein, on fait référence à la diapo tout à l'heure, elle est au cœur avec l'intégralité des composantes, hein, donc tout d'abord les tâches. Alors on voit les tâches, hein, c'est ce qui va caractériser l'activité. Elles vont être développées. Et puis, vous le verrez, dans le référentiel, systématiquement, nous avons des tâches de communication et des tâches centrées sur le numérique. Parce que ces tâches-là sont très importantes et transversales et elles balayent toutes les activités. Nous avons ensuite le contexte de la situation. Donc là, on le verra aussi. Il y a à la fois comment une compréhension à faire sur l'activité en elle-même, enfin le contexte de l'activité, mais aussi le contexte relationnel, donc communicationnel quelque part, et puis le contexte lié au numérique. Les données de la situation, c'est-à-dire c'est tout ce que l'on donne pour permettre de développer la compétence, tout ce qu'on met à disposition de l'étudiant encore une fois. Le domaine des savoirs associés, corpus de connaissances dont bien sûr on a besoin, c'est un petit peu l'étayage pour permettre de développer la compétence. Le périmètre de responsabilité, encore une fois jusqu'où on va, je fais très vite. Et puis les critères de performance, systématiquement développés sous l'angle organisationnel et méthodologique, mais également sous l'angle de la communication, donc critères de communication. Alors tout d'abord, le contexte. Alors le contexte décrit les éléments dans lesquels l'activité est mise en œuvre. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a plusieurs paramètres à regarder dans ce contexte. Tout d'abord, l'activité en elle-même de la PME. Quel type d'activité, tertiaire, industrielle, quels sont ses statuts, quel est son environnement, quels sont ses fournisseurs, etc. Quelle est sa stratégie également. Mais aussi toutes les composantes, de son réseau relationnel qui va permettre d'identifier avec quel type justement de partenaire il va falloir composer. Quel type de client, quel type de fournisseur. Et là, on voit bien sûr poindre aussi du doigt toutes ces fameuses compétences à la fois de communication, mais aussi comportementale, qui vont permettre de travailler au sein de la PME. L'autre élément qui, bien sûr, est tout aussi important, c'est l'environnement numérique de la PME, là, qui nous donne des indications sur quels sont les outils à mobiliser pour pouvoir développer l'activité. Donc, on le voit bien... La diapo suivante, on le voit bien dans le référentiel. Hein, à chaque fois, on vous fera des petites slides comme ça qui vous permettent de bien identifier ces différents éléments. On a bien sûr une activité recherche de clientèle et de contact dans le domaine 1. L'activité de la PME, des informations précises sur la stratégie. Donc c'est tout ce qu'il faudra apporter pour élaborer les scénarios, pour développer les compétences chez nos étudiants. Des indications sur le réseau relationnel, relations avec la direction, les salariés, les commerciaux, les clients, les fournisseurs. Et puis pour conduire cette activité, il faudra bien sûr avoir un accès Internet, un équipement numérique, un PGI. Sans cela, on ne peut pas développer l'activité. Alors c'est vrai qu'on voit bien au travers ne serait-ce que de ces éléments de contexte, toute la complexité dans laquelle évoluent les titulaires du diplôme gestion de la PME, hein, puisqu'il doit être à la fois polyvalent, réactif, être constamment en alerte, c'est-à-dire conduire des activités de veille. Donc là, tout l'environnement numérique, bien sûr, est convoqué. Et il doit développer à la fois les compétences spécifiques de gestion, relations clients-fournisseurs, de GRH, mais aussi des compétences transversales. Et c'est bien le pari, effectivement, qui est fait dans ce nouveau BTS, gestion de la PME, que de faire acquérir ces compétences spécifiques, mais transversales. Le deuxième élément, c'est de donner des situations qui apportent des précisions sur les éléments qu'il faudra mettre à disposition des étudiants pour développer la compétence. Alors, ils peuvent être de plusieurs natures. Ce peut être des documents, des budgets, des tableaux, par exemple, des devis, des factures, etc. Soit des informations, là aussi, des informations sur les clients, les fournisseurs, les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont, bien sûr, pour contacter des clients, l'étudiant devra, ou le titulaire du diplôme, aujourd'hui, devra faire appel aux réseaux sociaux. Et puis, ce peut être aussi des procédures, par exemple, sur la gestion des risques. Chaque PME a une procédure de mise en place pour gérer au mieux les risques. Donc là, il faudra mettre à disposition bien sûr, ces procédures pour permettre de développer l'activité. Là encore, si on regarde comment un peu finement ce qui est proposé dans le référentiel, on voit bien ce qui est de l'ordre des documents, en rouge, budget, mise à disposition des outils de prospection, des informations nécessaires à la recherche des clients, ce qui est de l'ordre de l'information, information sur le site web, si forcément aussi on travaille avec les réseaux sociaux, par exemple, et tout ce qui est de l'ordre des procédures, les procédures de réponse aux appels d'offres, par exemple, spécifiques encore une fois à la PME. Le troisième élément, c'est celui des savoirs associés. Donc les savoirs associés nourrissent bien évidemment les compétences. Alors ils sont de deux ordres, compétences spécifiques, compétences transversales. De fait, savoirs associés spécifiques à la compétence et savoirs associés transversaux. Alors sur les savoirs spécifiques à la compétence, si on prend un exemple, mais je ne rentrerai pas dans les détails, mais simplement montrer que sur un savoir spécifique comme celui du recrutement, bien sûr, l'étudiant devra avoir des notions sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, par exemple, sur les procédures de recrutement aussi de l'entreprise, mais il devra aussi avoir des notions sur le cadre juridique de l'embauche. Alors ces notions-là pourront être abordés, mais là, ça sera l'objet d'interventions de collègues tout à l'heure, pourront être abordés en lien avec le programme de culture économique, juridique et managériale, voire dans les heures dédiées à la culture économique, juridique et managériale appliquée. Donc là, il faudra faire un choix. Comment travailler toute cette dimension juridique sur cette activité, mais après, ça sera managériale ou économique sur d'autres, soit au travers du programme, soit lors des enseignements professionnels, soit lors des heures dédiées culture économique managériale appliquées. Et puis, à côté, nous avons bien sûr les savoirs transversaux. Vous le verrez lors d'une slide, ils sont très bien identifiés. On a les savoirs spécifiques, les savoirs numériques et les savoirs liés à la communication. L'avant-dernier élément est celui des contours de la compétence qui va permettre justement de délimiter l'activité, c'est-à-dire jusqu'où je vais, est-ce que l'activité je la construis ou je la mets en œuvre de A à Z, ou au contraire cette activité, est-ce que je la fais partiellement ? Qui plus est, nous donne aussi des indications sur son périmètre, c'est-à-dire est-ce que je la conduis seule, en autonomie, j'ai la capacité, la compétence pour, ou alors sur telle activité, il faudra bien sûr être en situation d'accompagnement uniquement du dirigeant. Là aussi, on le voit très bien, on borne avec ses limites les contours de l'activité, la prospection physique est exclue dans ce cas-là, recherche de clients par prospection pour répondre à un appel d'offres. La prospection physique est exclue, la prospection téléphonique est à la marge, donc là on borne vraiment l'activité. Et on voit également quelle est la prise d'autonomie envers le positionnement du titulaire du diplôme et celui de l'accompagnement du dirigeant. Donc là on n'est pas bien sûr en autonomie pour réaliser cette activité. Alors, le dernier élément, enfin la dernière composante justement qui va nous permettre à la fois d'élaborer des scénarios mais aussi d'évaluer si les compétences développées sont bien acquises par nos étudiants, donc c'est l'un des éléments les plus importants, celui des critères de performance puisqu'ils bornent à la fois l'apprentissage mais ils bornent également l'évaluation. Là c'est vraiment jusqu'où je vais. Alors, ces critères de performance sont de deux ordres, vous le verrez tout à l'heure. Ils sont à la fois organisationnels et méthodologiques. Hein, ça peut être une analyse, exploitation d'outils, une production. Et au niveau de ces critères opérationnels et méthodologiques, là aussi, ils sont de deux ordres, à la fois spécifiques et transversaux. Alors, spécifique, ça va être, par exemple, conduire une veille. Donc, conduire une veille dans l'activité gestion des risques, on voit bien que c'est spécifique et une activité. Par contre, dès lors qu'il faudra mobiliser le PGI, on sera bien sur un critère transversal. Le deuxième critère est celui de la communication. La communication dans son ensemble, et Amaya en parlera très bien, Amaya Géronimi, cet après-midi. C'est bien ça, c'est cet après-midi, je crois, Amaya. La communication globale, écrite, orale, et digital. Alors là aussi, nous avons des critères à la fois spécifiques. Hein, ça va être par exemple lorsqu'il va falloir, dans une activité de mise en place d'un projet, animer cette réunion, enfin faire une animation ou une collaboration. Donc là, nous sommes bien dans une activité avec des composantes spécifiques. Et puis, ça va être aussi des critères transversaux sur la communication écrite ou orale, un écrit professionnel par exemple. Alors là aussi, vous le verrez dans le référentiel, on le voit très finement. On a bien les critères en termes opérationnels et méthodologiques et les critères en termes de communication. Alors le vert, hein, le rouge. Et puis à l'intérieur de ces critères opérationnels et méthodologiques et de communication, on a tout ce qui est lié, c'est ce qui est en italique, à la compétence donc spécifique, à laquelle, justement, les critères qui sont rattachés aux compétences spécifiques. Et tout ce qui n'est pas en italique, c'est lié aux compétences transversales, donc qui irriguent toutes les compétences. Pardon. Alors là, c'est vrai que ça doit faire un petit peu flou vu de loin. On s'en excuse avec Géraldine. Néanmoins, c'était simplement pour vous montrer, à l'aide d'un synoptique, justement, où on retrouve un peu tout ce que je viens de vous présenter. On a bien sûr, alors votre gauche et puis au centre du tableau, tout le contexte, à la fois le contexte de l'activité, le contexte relationnel et le contexte numérique. On a bien l'ensemble des ressources, les données de situation. Vous avez sur la gauche tout le domaine des savoirs associés, clairement identifié, les savoirs spécifiques, les savoirs de communication, les savoirs numériques. Vous avez à gauche, en jaune, tout ce qui est de l'ordre des limites, le périmètre de l'activité. Et puis au centre, pour ça là aussi que c'est relativement central, hein, parce que très important, les critères de performance que je vous ai décrits tout à l'heure, opérationnels, méthodologiques et de communication, avec à l'intérieur ce qui est en italique, pardon, qui relève de la compétence spécifique, et ce qui n'est pas en italique, ce qui relève de la compétence transversale. Alors, une fois qu'on a bien identifié toutes ces composantes, eh bien, on va se poser des questions quant au fait d'élaborer justement des situations professionnelles. Et c'est Géraldine qui va prendre la parole.
Alors, nous avons bien compris maintenant, grâce à Véronique, comment était structuré ce référentiel en écho à ce que nous a présenté tout à l'heure Jean-Michel Paguet. Donc, on a bien une logique plusieurs référentiels, donc un référentiel d'activité professionnelle qui décrit véritablement les activités que l'on peut confier au futur titulaire du diplôme. Nous avons ensuite le référentiel de compétences, puisqu'il va bel et bien s'agir de développer, bien évidemment, l'acquisition de ces compétences par les apprenants, de façon générale. Et nous avons donc le référentiel de certification, qui va correspondre aux différents blocs de compétences, etc. Bon. Et nous avons vu, à l'instant, de quelle manière nous pouvons nous emparer concrètement ce référentiel de compétences, plus particulièrement, pour mieux comprendre, en effet, de quelle manière nous allons pouvoir développer des activités d'apprentissage au sein de nos classes. Alors, question que l'on peut se poser, effectivement, comment procéder, une fois que nous avons tous ces éléments en main, pour construire des activités d'apprentissage qui seront pertinentes eu égard aux objectifs visés. La première chose qui est absolument impérative, c'est d'élaborer, et ça va être vraiment un socle, un des piliers, si vous voulez, de notre discours au sein de cette journée de formation nationale, donc c'est l'élaboration de situations professionnelles. Élaboration de situations professionnelles, évidemment, nous sommes dans le cadre d'une formation professionnelle, assistant de BTS, assistant de gestion PME-PMI qui se transforme en BTS, donc gestion de la PME, donc exit hein, dorénavant voilà, l'ancienne intitulée. Donc, en quoi va consister l'élaboration de ces situations professionnelles ? Puisque ça va être le quotidien hein, des équipes pédagogiques. Alors, premièrement, il va s'agir de concevoir ces situations professionnelles. Et on verra tout à l'heure de quelle manière, puisque qui dit situation professionnelle dit ancrage sur, évidemment, la réalité des PME. Et on verra comment on peut s'ancrer justement dans ces réalités. Donc conception et validation de ces situations professionnelles au sein de l'équipe pédagogique, hein, puisque évidemment il va s'agir, dans un diplôme dédié à la polyvalence, de travailler bien sûr de façon collaborative au sein des équipes pédagogiques. Donc conception, validation en équipe pédagogique de ce qu'on va appeler effectivement des scénarios pédagogiques que l'on va concevoir, hein, donc un scénario avec un certain nombre évidemment d'étapes et les étapes correspondant à des missions, à des activités que l'on va mettre en œuvre pour développer et acquérir les compétences. Voilà. Donc une fois ces situations professionnelles conçues et validées, bien évidemment, il va s'agir de baliser une progression. Hein. Baliser une progression. Alors, bien évidemment, on pense à la progression pédagogique annuelle qu'il est nécessaire et que vous mettez en œuvre déjà au quotidien, hein, sur l'ensemble du cycle de formation, mais aussi baliser une progression eu égard, eh bien, on l'a rappelé tout à l'heure, au profil de chaque apprenant. On le sait, les étudiants ou les apprentis ou stagiaires qui démarrent leur formation hein, en BTS, gestion de la PME, eh bien, ont un parcours scolaire ou professionnel antérieur hein, qu'il va s'agir évidemment d'intégrer dans notre stratégie de mise en œuvre eh bien, de ces situations professionnelles. Donc on pourra baliser les progressions, dans le sens aussi individualiser les progressions conformément en effet au profil des apprenants de façon générale. Il va s'agir également de créer au sein de l'équipe pédagogique un outillage pédagogique d'évaluation, puisque évidemment on conçoit les situations professionnelles, le but étant de faire acquérir des compétences en vue du développement de la professionnalité des apprenants. Encore faut-il, bien entendu, s'équiper en tant que membre d'une équipe pédagogique hein, et d'un collectif pédagogique d'outils que l'on va réfléchir ensemble, concevoir et qu'on va ensuite utiliser, on en reparlera tout à l'heure pour certains aspects de la certification, parfois au quotidien, évidemment, et tout au long, en tout cas, du cycle de formation, pour évaluer si, oui ou non, dans le cadre des situations professionnelles, eh bien, les étudiants et étudiantes, globalement, évoluent de la manière dont on le souhaite par rapport à l'acquisition des compétences. Et, autre élément absolument fondamental, dans le cadre de ces situations professionnelles, eh bien, il va s'agir de favoriser une démarche d'explicitation. Alors l'explicitation, on va en reparler dans un instant et également tout au long de cette journée, puisque vous l'aurez compris, Jean-Michel Paguet a insisté là-dessus dès l'introduction. En effet, il nous semble que la notion de réflexivité de l'étudiant, de l'apprenti, du stagiaire est absolument fondamentale pour permettre la construction des compétences professionnelles visées au référentiel. Élaborer des situations professionnelles, on l'a dit tout à l'heure, il va s'agir de scénariser. C'est merveilleux le métier d'enseignant. On scénarise en collectif, n'est-ce pas ? On crée des scénarios pédagogiques. Alors, quelques éléments sur ces scénarios pédagogiques. Premièrement, dans le scénario pédagogique, il est impératif que l'apprenant, au sens large du terme, hein, soit en situation de mobiliser des ressources, évidemment. Alors, des ressources en termes numériques, des ressources documentaires, des ressources, des supports, etc., divers et variés, enfin, ressources vraiment au sens très large. C'est-à-dire qu'on va essayer de le rapprocher, finalement, des situations professionnelles réelles qu'il pourrait rencontrer et qu'il pourra rencontrer à la fois en stage et lorsqu'il sera donc titulaire du diplôme et donc travaillera en situation professionnelle. Bon. Donc, on va mobiliser des ressources en quantité multiple. Deuxièmement, situation professionnelle, scénario pédagogique aura une durée limitée. Évidemment, la notion de durée fait partie des contraintes que l'on va insérer donc, dans le scénario pédagogique. Et là aussi, l'objectif, c'est de se rapprocher au plus près du réel de la PME, hein, au sens large. Évidemment, on sait qu'on a des échéances, on a des dates butoirs, on n'a pas tout le temps, évidemment, nécessaire pour réaliser telle ou telle activité. Donc la notion de durée est absolument impérative également. Hein. Alors, les scénarios pédagogiques que l'on va concevoir donneront lieu systématiquement à des productions évidemment concrètes. C'est ce qui va nous permettre aussi d'évaluer hein, l'évolution dans l'acquisition des compétences professionnelles. Donc production d'écrits, production d'oraux, tableaux de bord, et que sais-je, etc. Bon là je vous renvoie évidemment aux différents éléments du référentiel de certification à proprement parler. Et puis l'idée c'est évidemment par le biais des scénarios pédagogiques, eh bien, on puisse donner du sens à l'activité qui est proposée à l'apprenant. Hein, et on reviendra tout à l'heure sur la notion de sens, hein, c'est-à-dire donner du sens, bien entendu, c'est-à-dire qu'on va proposer des scénarios pédagogiques qui renvoient à la réalité et aux réalités multiples, finalement, des PME. Et puis donner du sens aussi, c'est dans le sens, si je puis me permettre, aussi de donner du sens aux apprentissages, hein, et on va en reparler tout à l'heure, en termes de motivation et d'implication de l'étudiant ou de l'apprenti ou du stagiaire. Alors, comment, autre question importante, apprécier la pertinence d'une situation professionnelle ? En d'autres termes, on pourrait se poser la question de savoir que, finalement, qu'est-ce qu'une bonne ou situation professionnelle pertinente ? Voilà. Eh bien, on vous propose différents critères. Premièrement, mais ça, on le sait, hein, bien entendu, il faut trouver le moyen de motiver l'étudiant ou l'étudiante qui va construire donc, sa professionnalité au travers des situations professionnelles. Hein. Donc la motivation qui va déclencher l'action. Et là, bon, je vous renvoie aux travaux en sciences de l'éducation, etc. Bon, vous connaissez cela. On va considérer qu'une situation professionnelle est pertinente dans la mesure où il va permettre aux jeunes ou moins jeunes en formation, de mettre en œuvre différentes démarches. Et en aucun cas, il ne serait pertinent, dans la situation professionnelle, de lui suggérer plus ou moins la démarche à mettre en œuvre. Justement, l'intérêt, c'est que l'apprenant réfléchisse aux différentes démarches envisageables, choisisse, en motivant évidemment ses choix, telle ou telle démarche. Donc, effectivement, plusieurs démarches. La situation professionnelle, également, pour être une, entre guillemets, bonne situation professionnelle, ou recevable, en tout cas, par rapport à nos clients, eh bien, va devoir mobiliser plusieurs types de savoirs. Hein. Donc, multiplicité de démarches potentielles, multiplicité de savoirs, hein, référant, évidemment, au domaine d'activité, hein, différent, mais aussi aux compétences transversales dont on a parlé tout à l'heure. Hein, voilà, les savoirs en termes de communication, les savoirs en termes d'habileté sociale, les savoirs en termes de recours au numérique, etc., etc. Voilà. Autre critère, c'est que la situation professionnelle doit permettre à l'apprenant eh bien, de collaborer, d'être en situation de collaborer avec ses pairs. Et on sait que non seulement la notion de collaboration est absolument fondamentale pour le futur professionnel, le futur titulaire du diplôme, gestion de la PME, qui sera amené à travailler bien sûr avec le dirigeant ou la dirigeante de la PME, mais aussi avec les collègues, etc., et, bon, voilà, fournisseurs, clients et autres partenaires internes et externes. Bon. Mais aussi parce que, d'un point de vue pédagogique, on sait bien que le fait de travailler à plusieurs, avec ses pairs, permet de faciliter l'acquisition de la compétence. Pourquoi ? Parce que cette organisation va permettre non seulement, bien sûr, d'être en situation professionnelle, mais aussi de faciliter l'analyse réflexive. Autre critère qui nous semble important pour assurer de la pertinence d'une situation professionnelle, c'est évidemment la justification et l'explicitation de ses choix. Donc ça, c'est absolument fondamental. On l'a dit tout à l'heure, les étudiants, apprentis, stagiaires, vont être amenés, pour construire leur professionnalité, à justifier, argumenter. Pourquoi, par exemple, ils ont choisi telle ou telle démarche ? Dans quelle mesure il s'est avéré opportun de mobiliser tel savoir, de mettre en œuvre tel outil, telle ressource, etc. Donc là, on est vraiment dans la construction intrinsèque de la professionnalité, via donc la réflexivité et l'explicitation. Dernier point, c'est effectivement, là aussi, la notion qui est absolument au cœur de ce BTS, gestion de la PME, c'est la polyvalence. C'est-à-dire qu'on va considérer, là aussi, que la situation professionnelle que l'équipe pédagogique va construire, développer, proposer à l'apprenant, va lui permettre, non pas, comme ça a été dit tout à l'heure, de juxtaposer des domaines d'activité, des compétences, etc., avec une approche en silo qui est largement dépassée, on l'a dit tout à l'heure, mais d'accéder à la notion de polyvalence, effectivement, qui est tout à fait au cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, de ce BTS, et qui va permettre de donner du sens à l'existence parallèle, si j'ose dire, au sein du référentiel, parce qu'il faut bien structurer aussi, évidemment, les informations. Donc, donner du sens à tous ces domaines de compétences, à ces blocs de compétences qui sont, sur le papier, séparés. Mais dans la réalité des situations professionnelles que l'on va proposer aux jeunes, et dans la réalité du métier, on sait bien que ces compétences vont être mobilisées de façon globale, et cela va entraîner de la part du titulaire du diplôme la nécessité d'avoir, on l'a dit tout à l'heure également, une compréhension globale de la PME, mais aussi de son environnement. Voilà. Et donc ça va permettre effectivement également de développer la notion d'initiative. Alors, la construction de la compétence, on l'a dit, nécessite d'expliciter ce que l'on fait. C'est un des moteurs, en effet, de la construction de la compétence. En tout cas, ça va faciliter la construction de cette compétence. Pourquoi ? L'idée, c'est que l'apprenant, bien sûr, réalise les missions qu'on lui demande dans le cadre des situations et des scénarios pédagogiques. Mais c'est aussi qu'ils prennent conscience, soit dans l'action, soit après l'action, de ce qui s'est joué au moment où il a réalisé la mission qu'on lui a confiée, c'est-à-dire où il a développé, en effet, les compétences, il a mobilisé les savoirs, les outils, les ressources, etc., pour mettre en œuvre la mission que nous lui avons confiée. Donc, l'idée, c'est, via l'explicitation, faire en sorte qu'un processus de conscientisation apparaisse de la part de l'étudiant par l'analyse des choix qu'il aura opérés ou qu'il est en train d'opérer véritablement en situation. On a parlé tout à l'heure de praxéologie, donc on va peut-être passer rapidement. Donc la praxéologie qui va permettre justement de développer cette démarche d'explicitation. Je viens d'en parler. L'idée ici va consister à faire réfléchir l'étudiant ou l'étudiante au moment de l'action, vous voyez, réflexion dans l'action, ce qui va lui permettre d'autoréguler son activité donc en temps réel, si j'ose dire, mais aussi, notamment dans le cadre des ateliers de professionnalisation, on y reviendra tout à l'heure, une réflexion sur l'action, c'est-à-dire une fois que l'action est terminée, notamment en référence aux périodes de stage, en retour de stage par exemple, on va amener l'étudiant ou l'étudiante à se poser un certain nombre de questions effectivement sur l'action qui a été réalisée, pour en extraire, si j'ose dire, la substantifique moelle, de telle sorte que, en effet, la compétence puisse donc se construire via la conscientisation effectivement des différents éléments qui ont été mobilisés, avec comme objectif de transférer cette substantifique moelle, si j'ose dire, à d'autres situations professionnelles. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on pourra dire que la compétence est construite. Alors, très vite, quelques questions que l'on peut être amené à poser à la personne en cours de formation. Hein. Donc, on va l'amener justement à expliciter, à verbaliser hein, sur les méthodes, les outils, etc., à repérer les savoirs mobilisés, à questionner les ressources. Hein. On voit donc le rôle hein, à la fois de l'étudiant et le professeur qui va organiser et mener à bien cette explicitation. Alors là, on voit une situation d'explicitation orale, mais l'explicitation pourra également être réalisée par écrit. Alors ça, il faudra doser aussi en fonction du profil de l'étudiant. Voilà. Alors quelques exemples de questions, des questions que l'on peut poser justement pour mettre en œuvre ces ateliers de praxéologie. Donc des questions autour du contexte. Hein, quand, où, quand, comment, etc., avec qui, etc. Voilà. Question autour du procédural, comment l'action s'est déroulée, quelle démarche a été employée, dans quel ordre les actions ont été menées, etc., etc. Questionnement sur les buts et questionnement sur les savoirs.
Bien, écoutez, on boucle quelque part cette première présentation qui devait vous permettre de beaucoup mieux analyser toutes les composantes, on va dire, du référentiel, pour après les transformer en situation d'apprentissage. Et puis, vous rappelez toute la nécessité, hein, comme l'a très bien fait effectivement Géraldine, que de travailler sur l'explicitation, de mettre en œuvre la praxéologie. Parce que là, derrière, bien sûr, les enjeux sont très importants. Il y a bien sûr un regard sur l'action, hein, sur ce qui a été fait, comment je peux être plus efficace, davantage professionnel, mais aussi en entreprise, déguiser un peu la curiosité, enfin permettre de déguiser plus tard la curiosité de nos étudiants, dès lors qu'ils analyseront systématiquement ce qu'ils ont fait. Donc là, on rentre aussi dans une démarche à la fois de professionnalisation et de développement des compétences tout au long de la vie, à la fois, bien sûr, dans une démarche personnelle et professionnelle. Voilà, écoutez, si vous avez quelques questions ou pas, à ce moment-là, on passe à d'autres... À d'autres interventions.
Je souhaiterais juste savoir à quel moment on doit mettre en place cette construction de scénario. Est-ce que c'est systématique sur n'importe quel moment de l'apprentissage ? Est-ce que c'est plutôt dédié, par exemple, aux ateliers, aux groupes ? Voilà.
L'élaboration des scénarios, bien sûr, se construise en équipe, hein, puisque vous l'avez bien compris, là aussi, dans toutes les constructions maintenant de référentiel, on se doit de travailler en équipe, c'est-à-dire, dès lors, en plus que la polyvalence est mise au cœur hein, du métier, on doit prendre des morceaux de compétences pour élaborer ces scénarios. Alors, ces scénarios sont davantage mis en œuvre, bien sûr, dans les ateliers de professionnalisation, c'est le but. Hein, et puis les cours, enfin les heures en classe entières, permettent d'approfondir des notions, permettent de revenir ou de démarrer sur des concepts peut-être un peu complexes hein, qu'il faudra justement développer pour pouvoir justement mettre en œuvre la compétence au travers des scénarios mis en œuvre dans les ateliers professionnels. Alors rien n'empêche bien sûr aussi, dans le cadre de TD, hein, de mettre en œuvre ces scénarios hein, aussi. Mais c'est vrai que le but premier, c'est les ateliers de professionnalisation. Oui, car il y a de la co-animation, bien sûr.